Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat et des initiatives positives françaises. Au sommaire, ce soir, 100 000 personnes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes présentent un trouble du spectre de l'autisme. La journée mondiale de l'autisme, c'est ce soir l'occasion de faire le point sur l'inclusion des personnes autistes dans notre société, dans nos entreprises, mais aussi les avancées sur le diagnostic. Pour en parler, des invités courageux qui se sont engagés dans cet accompagnement dans l'autisme, comme vous. Bonsoir Mohamed Sajidi.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge, vous êtes le président fondateur de l'association Vaincre l'autisme. Bonsoir Ludovic Lecointre.
Bonsoir.
Bienvenue avec vous ce soir, un appareil d'imagerie médicale qui permet de détecter les troubles du neurodéveloppement ainsi que des troubles du spectre autistique. L'autisme bientôt peut-être détectable chez les nourrissons, c'est ça votre ambition ?
Bientôt peut-être, oui.
Hein, c'est en test en ce moment, oui. On va en parler d'ici quelques minutes, ça s'appelle Iconeus, c'est ça ?
Iconeus, absolument.
Iconeus, votre entreprise. Et l'autre talent de ce soir, c'est vous, Sarah Chériot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la CIO fondatrice de Auticiel. Vous permettez à des personnes autistes de communiquer via des tablettes. Ça aussi, c'est une révolution. Il y a des avancées en France et on en parle ce soir sur Europe 1. Ravie de vous retrouver comme chaque soir, Clara Léger. Bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Vous avez rencontré Lali Dugelet.
Exactement.
Et son histoire est extraordinaire. Diagnostiquée autiste à l'âge
de 43 ans, elle a créé une structure qui s'appelle Atypiat Work qui sensibilise les entreprises à l'insertion et à l'accompagnement des personnes autistes.
Vous allez tout nous raconter. Restez avec nous jusqu'à 21h. Bienvenue dans La France Bouge, en régie Christophe Pirot. La France Bouge, c'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble donc jusqu'à 21h sur Europe 1.
Europe 1, l'invité de La France Bouge.
Et ce soir, journée mondiale de l'autisme. Quelles sont les solutions en matière d'accompagnement des familles ? Comment faire en sorte que les personnes atteintes d'autisme aient un travail ? Ils sont pour certains parents d'enfants autistes. Ils déplacent des montagnes. Ils font avancer les choses. On va démarrer avec vous. Vous en faites partie, Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. Vaincre l'autisme, c'est une association. Vous avez été très précurseur dans notre pays puisqu'elle existe depuis plus de 20 ans.
24 ans.
C'est très, vous avez été précurseur. C'est une association. Vous allez pitcher. Et puis ensuite, on va se retrouver et on va en parler dans le détail. Vous êtes prêts ?
Très bien, oui.
C'est à vous, vous écoutez.
Alors, Vaincre l'autisme, c'est une association de familles, donc de parents qui ont créé l'association. Je l'ai fondée avec ma famille, puis les parents qui nous ont rejoints, pour défendre les droits fondamentaux déjà des enfants autistes et de leurs familles, et en même temps faire connaître et reconnaître l'autisme, ainsi que les prises en charge innovantes qui vont vers dans le sens éducatif et comportemental. Donc, il a fallu préparer des solutions, les évaluer avec une démarche scientifique pour montrer les résultats, afin de montrer au pouvoir public ces démarches innovantes qui répondent aux besoins des enfants autistes, quel que soit leur âge. Et actuellement, nous sommes dans une démarche de faire développer des programmes de recherche et aussi de pouvoir mettre en place une générosité française pour l'autisme, car cette cause, malheureusement, n'a pas de générosité à l'heure actuelle. Dans le sens, notre combat, c'est de montrer que l'autisme, en fait, c'est quelque chose qui atteint gravement la santé de l'enfant et de sa famille, et que dans son sens, il doit être considéré comme une maladie. Pour nous, c'est une maladie neurobiologique et doit être traitée comme telle. Car les causes, on ne les connaît pas, on connaît à peu près 10% des causes actuelles.
Merci pour votre pitch, il est 20h08 sur Europe 1. Merci Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. Donc vous, tout a démarré il y a 24 ans, on va revenir un petit peu sur le début rapidement et après on verra sur là où vous êtes arrêté, c'est-à-dire qu'on connaît à peine 10% des causes. Vaincre l'autisme, donc tout a commencé aussi parce que votre fils, c'est Samy qui est atteint d'autisme.
Tout à fait, Samy est atteint d'autisme et il a fallu que je l'ai découvert à l'âge de 10 ans et demi par des témoignages de parents canadiens que j'ai trouvés sur Internet.
C'est ça, parce que sinon c'était juste une maladie infantile. Psychotique infantile.
Psychose infantile. Que les psychiatres, psychanalystes posaient sur lui, plusieurs d'ailleurs, et passaient leur temps à culpabiliser ma femme, qui est la mère de l'enfant.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, au lieu d'aller vers des causes plus médicales et plus physiologiques.
Oui, et surtout que ma découverte à l'époque, parce que ça a été une claque quand j'ai découvert ça, je faisais confiance à la médecine française pour moi, pour mon enfant. Mais j'ai découvert en fait qu'il y avait cette culpabilité, mais qu'il y avait ce mastodonte de la psychiatrie psychanalytique qui interdisait en France toute connaissance dans le monde scientifique sur l'autisme.
Et c'est pour ça qu'on a pris autant de retard en France, parce que les autres pays occidentaux n'ont jamais placé la psychanalyse au centre des causes liées à l'autisme. Nous, on a perdu 40 ans là-dedans.
40 ans, ce qui est encore bizarre, c'est que l'État n'a pas encore fait évoluer les choses, parce que la psychanalyse est rentrée.
Il y a des plans autisme, il y a de l'argent, oui, il se passe des choses.
Oui, mais je parle plutôt dans le sens de l'influence de la psychanalyse dans la santé publique. C'est ça qui n'est pas normal, parce que normalement, on est dans des hôpitaux, donc la médecine doit être basée sur des preuves scientifiques. Cette médecine factuelle n'existait pas. Maintenant, ça, grâce au combat de l'association et d'autres associations, ça a évolué.
Ça a évolué pour que
maintenant,
les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien. Quand je dis que la psychanalyse était au centre, c'est-à-dire qu'on s'en prenait aux familles. On culpabilisait sans arrêt les mères. C'était à cause des mères qu'on avait des enfants autistes, à cause
exactement.
Des mamans.
Exactement, mais ça c'est la
vous l'avez vécu.
Exactement, mais là, j'ai combattu ça. Mon combat était avec la psychiatrie psychanalytique. Ça a duré dans tous les médias, sur des plans juridiques, etc., jusqu'à ce qu'on ait la mise en place du deuxième plan autisme, qui reste une référence dans l'évolution, pour qu'il y ait des recommandations de la Haute Autorité Santé sur l'autisme et le diagnostic de l'autisme.
Donc ça arrive après les années 2000.
Bien sûr, c'est arrivé très très tard. C'est arrivé très tard, mais sauf que maintenant, on ne parle plus de ça, ça continue à s'exercer dans les institutions.
Parce qu'il y a des influences, la psychanalyse demeure présente en France.
C'est un pouvoir extrêmement puissant.
Ça reste puissant, mais vous avez réussi à diagnostiquer tout de même Samy à l'âge de 10 ans.
À l'âge de 10 ans, et malheureusement le temps de savoir ce qu'il faut faire, il est arrivé à 14 ans pour découvrir que c'était de l'autisme qu'il prise en charge. Il a fallu apporter ses prises en charge de Suède et des États-Unis pour développer des concepts novateurs qui arriver à traiter les troubles graves de l'enfant. Et je vous assure, ça, on a commencé à 14 ans, on a mis 6 ans pour réduire les troubles graves qui étaient liés à ce qui s'est passé par cette mauvaise prise en charge dans l'hôpital psychiatrique.
Oui, parce qu'on les envoyait à l'hôpital psychiatrique,
voilà,
on culpabilisait la maman, on les bourrait de médicaments, et puis voilà.
Absolument. Et l'enfant n'avait pas d'éducation.
Oui, c'est ça.
Et c'est ni soigné, ni éduqué.
Ni soigné, ni éduqué. Mamed Sajidi, vous êtes avec nous ce soir sur Europe 1, président fondateur de Vaincre l'autisme. Et donc, vous vous êtes dit, mais moi, je veux tout faire pour que mon enfant ait une scolarisation, quelle qu'elle soit. Donc, vous avez créé cette association qui s'adresse à toutes les personnes autistes, peu importe leur âge. C'est-à-dire que même si vous vous adressez aux enfants, évidemment, parce que c'est à ce moment-là qu'on le détecte, l'association Vaincre l'autisme s'adresse aussi aux adultes.
Et ça veut dire que nos enfants, même si sans adultes, ils restent nos enfants, parce qu'on est une association de parents. Ce qu'il faut retenir, c'est que ma colère, elle est venue parce que le fait de je pouvais pas accepter que mon fils ne soit pas scolarisé et qu'il reste bête. Le combat était là, parce que l'association s'appelait Léa pour Samy avant, qui était le nom de mes enfants, jusqu'en 2010. Et le combat était pour la scolarisation. Pareil, il n'y avait aucun enfant autiste qui était scolarisé à l'époque. Aujourd'hui, la majorité le sont.
Et ça reste difficile.
Ça reste difficile parce que l'éducation nationale n'a pas les moyens.
Et donc n'est pas formée.
Elle n'est pas formée et les moyens sont donnés toujours aux sanitaires, malheureusement. Et ça, c'est un problème. Je crois que c'est du sort du Premier ministre à changer pour qu'il y ait des moyens à l'éducation, parce qu'aujourd'hui, le seul traitement, c'est un traitement éducatif et comportemental qui améliore l'état de santé des enfants.
Et un traitement inclusif, c'est ça qui est important.
Il l'est automatiquement, ce programme éducatif, nous l'avons fait. Et la démarche que j'ai créée...
Donc vous l'avez fait en 2004, donc c'était il y a 20 ans. Vous retroussez les manches, et c'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge ce soir sur Europe 1. Vous fondez la Futuro School.
Tout à fait. Le concept Futuro School, c'est quelque chose qui a permis d'analyser toutes les prises en charge qu'il y a dans le monde, et notamment les prises en charge comportementales qui existaient depuis 40 ans aux États-Unis. Mais sauf que nous, on les a évaluées selon le concept français dans le milieu ordinaire. Et c'est une innovation.
Ça veut dire quoi?
Énorme.
C'est-à-dire, vous l'avez. Donc, vous êtes allé le chercher aux États-Unis. Ça consiste en quoi, cette Futuro School?
La science est un champ de la science, et l'ABA, c'est une analyse appliquée du comportement, qui est un champ de la psychologie comportementale, qui est enseignée partout dans le monde, sauf en France, pardon. Et donc, ce champ-là, nous l'avons pris et nous avons adapté les programmes des enfants pour qu'ils suivent le cas par cas.
Ça veut dire que ce soit quasiment du sur-mesure ?
C'est du sur-mesure, c'est du chirurgical en termes d'éducation. Et donc, Parfait Your School, nous, on n'a pas voulu développer, on voulait montrer des concepts au gouvernement et à l'État ce qui marche.
Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui marche ? C'est quoi le concept ? Ça veut dire que, je crois que quand vous dites que c'est du sur-mesure, c'est quasiment de la haute couture, vous proposez 20 heures de travail par semaine, décomposées en 10 séances de 2 heures.
Oui. Et ce programme-là, il est adapté au cas par cas. En fait, notre objectif, c'était de pouvoir trouver une solution commune qui répond aux besoins du cas par cas. Donc, la stratégie et la technique d'éducation est la même, sauf que le programme est adapté au cas par cas et il implique à 100% les parents. Les parents ont une guidance parentale toutes les semaines. Ils décident du programme de leur enfant avec le psychologue spécialisé. Ils l'évaluent et eux-mêmes sont co-auteurs du programme et co-intervenants aussi à domicile.
Qui sont les professeurs ?
Les professionnels sont des psychologues.
Ah, donc il n'y a pas de professeur, parce que c'est pas l'école, c'est la Future School, mais est-ce qu'ils apprennent des choses ?
Ils ne font que ça. En fait, on commence déjà par leur apprendre comment apprendre. Et après, ils vont apprendre au fur et à mesure. Et donc, ils vont à l'école normale, et dans ce travail de Future School, on va décortiquer le travail pour qu'ils travaillent one-to-one. C'est-à-dire, c'est un pour un sur quelque chose de précis pour que l'enfant soit concentré sur là où il a besoin de progresser. Et c'est évalué toutes les semaines, réadapté toutes les semaines avec 3 niveaux de supervision pour avoir toujours des programmes efficaces. Et ce résultat-là, aujourd'hui, marche.
Vous en avez donc, vous avez un recul, puisque ça fait 20 ans, Mamed Sajidi, que vous avez créé cette Future School, donc cette école à destination des enfants autistes. Quels sont les résultats ? Qu'est-ce que vous avez vu émerger ?
Les résultats d'aujourd'hui, c'est qu'on a 3 enfants qui sont restés 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, sont sortis définitivement de l'autisme. Je dis bien sortis de l'autisme.
Vous êtes en train de dire que vous pouvez guérir de l'autisme ?
Moi, je parle pour la guérison de l'autisme. Le futur, il n'est pas discutable pour moi. Ça, c'est le retard en fait, des mentalités.
Il y en a plein qui disent encore qu'on ne peut pas guérir de l'autisme.
Non, oui, mais en quoi il le dit ? Il n'a aucune preuve. Ça, c'est
des
idéologies.
Donc, vous vous dites que c'est, ce soir sur Europe 1, que c'est l'environnement, la prise en charge individuelle. En gros, c'est l'accompagnement au quotidien qui peut permettre une évolution positive ?
En ne connaissant, oui, en ne connaissant que 10% des causes à peu près. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut améliorer ça. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que notre réponse par Future School, on répond à n'importe quel enfant, n'importe quel adulte autiste, quel que soit son degré d'autisme et son lieu de vie. Ça, c'est des résultats qui sont obtenus avec Future School. Et pour le reproduire, comme la difficulté est tellement forte en France, nous l'avons reproduit au Maroc à Casa, et on a les mêmes résultats avec le même système de prise en charge qui est adapté à des gens qui ont une culture différente, des âges différents, un degré d'autisme différent.
C'est quel âge alors ?
Ça va de 4, là, actuellement, ça va de 4 ans à 33 ans.
Mais ils ne sont pas tous ensemble au même endroit ?
Jamais, et on ne met jamais les enfants ensemble, on ne travaille jamais avec les enfants en groupe, c'est du one-to-one dans le milieu ordinaire, et c'est les enfants...
Quand vous dites milieu ordinaire, ça veut dire que c'est chez eux ?
Chez eux, à l'école, dans le pratique, tous.
D'accord, donc ils peuvent être, par exemple, inscrits dans une école, et là, au centre d'école, il y a une personne de Future School qui vient avec lui, qui va l'accompagner. Vous êtes en train de résoudre le problème des AVS.
Il est déjà résolu depuis un moment, et les AVS, pour nous, c'est pas le concept, c'est pas le dispositif qu'il faut. On parle de meeting
au fond. AVS, c'est les assistants de vie scolaire.
De vie scolaire. Ça, c'est pour les personnes handicapées qui ont besoin d'une aide
physique,
etc. Ouais. Alors que là, on parle d'intervention. C'est des gens qui doivent être absolument spécialisés dans la gestion des troubles de comportement. C'est comme ça que l'enfant va pouvoir être concentré pour suivre les consignes de l'enseignant, etc. Et ça, c'est des choses réussies. Quand je le dis réussies, c'est réussi en France mieux qu'ailleurs dans le monde. Et ce qui est terrible, c'est que nos dirigeants doivent entendre ça et le voir. Ils vont aller voir ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, tout, mais ils ne voient pas ça. Et quand je vous le dis, vous savez aussi qu'il y a des familles seules qui vont suivre ces mêmes programmes-là de façon très exigeante quand ils ont l'énergie et les moyens financiers.
Il y a eu
combien,
j'ai envie de dire, d'élèves, je ne sais pas, ou de patients, vous les appelez comment, les personnes que vous prenez en charge ?
Des élèves.
Combien d'élèves en 20 ans ?
Je crois qu'on est à une trentaine qui sont passés par la
structure. Pourquoi c'est si peu ?
En fait, le concept Future School, c'est la qualité de la prise en charge qui est prioritaire. Par exemple, là, ils doivent être 12, c'est des unités de proximité. C'est en contraire de ce que le système fait, c'est-à-dire ils mettent 40, 50 personnes ensemble dans une institution et ça ne marche pas. Mmh. Là, en fait, les enfants, ils doivent être 12.
Ouais, donc il faudrait qu'il y en ait plein des Future School.
Plein de petites, ils doivent être localement et légèrement, en fait, ils peuvent se monter rapidement et ils ont un moindre coût, ils sont à la moitié du coût ce que ça coûte dans un institut médico-éducatif.
Mais pourquoi il y en a pas plus en France des futures schools
parce que, que l'État n'a pas encore couvert. Pas du tout, c'est un système qui est en fait un programme légiféré, comment monter les structures, comment financer ces institutions, mais qui n'a pas intégré ça. Or que Future School, on a réussi, il a fallu des batailles, des grèves de la faim, etc. Oui. Aujourd'hui, il est intégré dans le système, mais pour le multiplier, il faut qu'il y ait des décisions du gouvernement.
Il y a pas mal de parents comme vous qui se sont retroussés les manches, qui se mobilisent. Clara Léger, je me tourne vers vous, des parents qui ont décidé dans l'Ouest, dans un département de l'Hérault, qui ont décidé donc de financer une école aussi pour les enfants autistes.
Oui, elle a ouvert en octobre dernier. C'est une initiative d'un papa qui s'appelle Jean-Michel Perra, qui était le père d'Achille, 8 ans, qui a réussi d'abord à faire scolariser son fils dans une école privée de son département. Le problème, c'est que ça demandait une logistique. L'école privée, ça a un coût. Donc lui, il a décidé de créer l'association Autartiste pour fonder une école spécialisée qui accueille les enfants autistes qui ne bénéficient pas donc d'une scolarité adaptée. Il a récolté des fonds et grâce à ça, il a pu ouvrir cette école avec une capacité d'accueil d'environ 60 enfants qui sont répartis en classe de 6 élèves à chaque fois selon les âges. Pour l'instant, il y a seulement les enfants entre 6 et 12 ans
mais
qui sont accueillis.
Mais ça répond un peu à ce que dit Mohamed Sajidi. Là, pareil, hein, c'est des petits,
c'est des petits
c'est
groupes.
Des énergies. En fait, ces énergies-là existent en France. Il faut comprendre que, je vous dis, actuellement, le combat était sur la discrimination des personnes autistes sur le plan étatique institutionnel. Aujourd'hui, la France, elle est première par ce qui se passe sur le terrain. Sauf que ce n'est pas ce qui se décide dans la politique de santé publique. Donc, il faut vraiment qu'on nous dirige, on prenne conscience de ce potentiel français qui est créé, qui est innovant, extrêmement innovant, parce qu'il a cette qualité d'intervenir dans le milieu ordinaire.
Il y avait Olivia Caton dans le journal d'Hélène Zelani tout à l'heure qui disait à peu près la même chose que vous. Mohamed Sajidi, vous êtes le président fondateur de Vaincre l'autisme. Comment va Samy ?
Très bien.
Il a quel âge aujourd'hui ?
33 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je devais partir avec lui au Maroc.
Ouais.
Et là, il est parti tout seul parce que
tout
je
voulais
être avec vous. On a changé de billet. Il est parti tout seul.
Il est autonome.
En autonomie, c'est une grande réussite pour nous. Donc, c'est une victoire pour quelqu'un qui n'a commencé à être éduqué avec des troubles graves de comportement. Je parle d'état sauvage, hein, d'automutilation, de violence. En 6 ans, on a pu réussir un travail énorme. Maintenant,
mais là, vous nous dites qu'il est dans l'avion, il est autonome.
Il est parti, il est déjà arrivé. Ah, il est parti à midi ce matin.
Bah, c'est la preuve vivante que ça fonctionne.
Oui, et surtout sur des cas, même quand on les prend extrêmement graves et qu'ils n'ont pas eu de prise en charge, on peut réussir avec l'éducation à les améliorer, améliorer leur état de santé et leur vie dans le milieu ordinaire. Il faut savoir quand même qu'il y a 80% des divorces dans les couples et que les mamans sont seules. Dans le cas de Samy ou d'autres, c'est exceptionnel parce que tous les parents n'ont pas cette énergie-là. Tous les parents n'ont pas cette énergie-là. Et qu'il faut quand même qu'on aide ces familles, surtout les mamans qui restent seules avec leurs enfants. Aujourd'hui, on a à peu près 1 300 000 de personnes touchées. Il y a au moins 1 million de personnes adultes autistes. Je crois qu'il y a 10% qui sont pris en charge dans des hôpitaux psychiatriques ou des...
Il faut arrêter les hôpitaux psychiatriques et les médicaments à outrance. Et aller sur du cas par cas, c'est ce que vous nous dites ce soir. Vous restez autour de la table de la France Bouge. Mohamed Sajidi sur Europe 1, les solutions françaises en cette journée mondiale de l'autisme, avec une solution de diagnostic précoce. C'est si on détectait l'autisme chez les nouveau-nés, ça vous dit ? Bien, vous restez avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, il est 20h24, vous écoutez La France Bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Ce soir, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, et on avance, même si on était parti avec beaucoup, beaucoup de retard. On en a parlé avec vous, Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. D'ailleurs, Clara Léger, on avance même dans les supermarchés.
Oui, avec les heures calmes, c'est un concept anglais qu'on a importé dans nos supermarchés français, et aujourd'hui, 77% des hypermarchés et des supermarchés proposent chaque jour, entre 2 et 4 heures de silence par jour. Donc l'idée, c'est de réduire les lumières du magasin, de couper la musique, couper les annonces sonores, et ça permet notamment aux personnes autistes de pouvoir faire leurs courses de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme.
Mais ça aussi, ça fait du bien, ça prouve qu'on avance. Hein.
Oui, on progresse. On ne peut pas dire qu'on ne progresse pas.
Mais ça, voilà. Et on est là ce soir sur Europe 1 pour en parler. On est toujours autour de la table de La France Bouge. L'autisme, ça concerne 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes en France. On a tous eu une personne à un moment donné concernée ou touchée par l'autisme. C'est ce qu'a constaté aussi Antoine Fenech au micro Europe 1 de La France Bouge. Écoutez.
le cousin de mon conjoint que l'on soupçonne, parce que en fait ce qui est problématique dans l'autisme selon moi c'est le diagnostic. Il y a un spectre tellement large. Dans notre famille il y a un jeune garçon lycéen qui pourrait être diagnostiqué autiste. Il a, c'est vrai, un problème de trouver un parcours professionnel au niveau des études. Il a quand même un petit souci d'insertion auprès des autres.
Je connais effectivement plusieurs personnes autistes. La plupart sont des artistes, donc ils sont assez bien intégrés dans le sens où ils sont indépendants. Après, effectivement, je trouve que c'est toujours difficile. Quand j'étais plus jeune, un ami qui lui était autiste lourd, et effectivement, c'était beaucoup plus difficile. J'ai plus de nouvelles de lui, mais j'imagine que son intégration a été beaucoup plus complexe.
Moi, je connais quelqu'un qui est autiste. Il est assez évident qu'ils sont confrontés à des soucis d'intégration.
J'ai connu un jeune garçon qui était autiste quand j'étais au lycée. Il était plutôt bien intégré parmi les autres élèves, malgré encore le fait à l'époque qu'il y ait une certaine distance qui se soit créée entre lui et les autres élèves. Je pense du fait un peu de la différence avec laquelle il abordait le monde.
J'ai l'impression, quand on entend ces paroles de français, c'est qu'il y a autant de cas d'autisme. Il y en a énormément. Hein, autour de la table, je me tourne
oui,
vers
je,
vous. Même ça, j'ai dit, mais vous pouvez répondre aussi, hein, Sarah Chirio.
Juste une chose sur le chiffre que vous avez annoncé. En fait, depuis 2013, on annonce qu'il y a une naissance sur 50, ça veut dire 2%. Et l'État commence à le reconnaître maintenant.
Donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus et il va y en avoir encore plus au niveau des prévalences parce que les femmes ne sont pas très bien diagnostiquées. Et ça, c'est lié aux
les
critères.
Enfants, ou les femmes.
Les femmes. Les,
on va en parler avec Lara Léger tout à l'heure.
Les femmes, justement, parce que les critères de diagnostic ne sont pas habilités pour les femmes.
C'est pas les mêmes selon le genre ?
En fait, le diagnostic est encore clinique et il n'est pas médical.
Alors,
on n'a pas de marqueur biologique. C'est une observation des enfants et les femmes sont plus intelligentes. Elles arrivent à camoufler en fait leur comportement autistique parce qu'elles ont un QI très élevé.
C'est ce qu'elle vous a dit, la
Oui, c'est exactement ce qu'elle m'a dit.
Vous allez nous en parler.
Et du coup,
elles
sont diagnostiquées à 30, 35, 40 ans.
Aujourd'hui, d'ailleurs, la présidente d'Autisme France a déclaré que la France n'a pas rattrapé son retard sur ses voisins occidentaux à propos de cette détection. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, tout à fait. Enfin, moi,
c'est encore
ce que
compliqué.
Madame Langlois, oui.
Parce que normalement, ça devrait être à 18 mois, c'est ce qu'il y a écrit dans le plan autisme. Sauf que là, l'âge moyen est de 5-6 ans. Et encore, je suis sympa.
Oui, hein? Vous êtes très sympa.
Ouais, parce que ça va.
Il faut reconnaître qu'il y a des diagnostics précoces. Il est quand même. Elle a très, très bien avancé. Mais aujourd'hui, on peut, pour les gens compétents, pour des médecins compétents, on peut diagnostiquer même. Vers 8 mois, vous voyez.
Mais
je pense que mes critères de mon enfant, ce que je connais aujourd'hui, à 8 mois, il avait déjà les critères apparents.
Mais parce que vous l'avez beaucoup observé, vous.
Parce que je connais mieux aujourd'hui ce qui s'est passé par rapport à d'autres.
Justement, ce soir, on a trouvé sur Europe 1 ce qui pourrait être une révolution dans la détection de l'autisme.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
La pépite avec vous, Ludovic Lecointre. Vous avez cofondé Iconus, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
La start-up existe depuis 6 ans.
Oui.
Vous avez, on va revenir un peu sur votre parcours, c'est bien de connaître qui sont les entrepreneurs autour de la table de la France Bouge. Vous avez une formation de pharmacien, vous avez travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant près de 20 ans. Et puis vous êtes parti, vous avez acheté une pharmacie.
Oui.
Ça a duré 10 ans, bon c'était pas le meilleur souvenir.
Oui, c'était pas mon truc.
Non, c'était pas votre truc. Et vous avez fait le choix d'aller travailler à l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Oui, plus précisément, j'étais expert externe.
Expert externe. Oui. Comment vous vient l'idée de, fonder une entreprise et pourquoi dans le domaine de l'autisme ? Enfin, c'est sur les maladies, sur la détection des maladies liées à l'autisme.
Alors, c'est le résultat d'un parcours qui n'est pas programmé forcément comme ça au départ et de rencontres.
C'est souvent des rencontres entrepreneuriales.
Et en fait. Il se trouvait qu'en tant qu'expert externe à l'ANSM, donc j'évaluais les dossiers, pour faire court, les dossiers d'AMM que déposent les entreprises pharmaceutiques pour avoir leurs autorisations de mise sur le marché.
Donc pour avoir l'agence du médicament.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et en fait, j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Michael Tanter, qui est à l'origine de technologies innovantes dans le domaine de l'imagerie par les ultrasons depuis de nombreuses années. Et il m'avait demandé à l'époque d'évaluer un projet lié à l'administration de médicaments avec des ultrasons. Et j'ai commencé à découvrir le monde de l'innovation par ce biais-là, en travaillant avec eux. Et puis, bon, ce projet n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Mais j'ai découvert cette innovation académique.
Mais c'est quoi cette innovation ? C'est l'objet même d'Iconus ?
Alors, en fait, Iconus, c'est une start-up qui exploite, si vous voulez, les résultats de recherche, de la recherche académique française, en l'occurrence, principalement INSERM et CNRS.
Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, en lien avec l'autisme, pour qu'on comprenne bien tous ce que ça veut dire, comment vous faites avancer ce diagnostic de plus en plus précoce. On vous écoute et ensuite, on va vous poser des petites questions. Vous êtes prêts?
Oui.
Allez, on vous écoute, Ludovic Lecointre, c'est à vous.
Alors, Iconus, c'est une start-up donc, qui est active depuis début 2017, qui exploite donc, des technologies de l'INSERM et du CNRS, comme je viens de le dire, pour faire de l'imagerie neurofonctionnelle. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est le mot fonctionnel, c'est-à-dire que nous n'imageons pas les structures tissulaires du cerveau, il y a d'autres techniques qui font ça très très bien. Nous, on image les phénomènes dynamiques qui se passent dans le cerveau quand il travaille. Et nous sommes une start-up un petit peu particulière, j'ai l'habitude de dire une start-up PME, parce qu'en fait, nous ne vivons pas sur des levées de fonds en cascade qui s'enchaînent pour faire progresser la société. Nous vivons dès le début de la société sur notre chiffre d'affaires que nous réalisons sur un marché, un premier marché qu'on appelle le marché de la recherche fondamentale sur le cerveau, dont nos clients sont des chercheurs en neurosciences, et à ces chercheurs on leur vend un produit qui exploite ces technologies innovantes de l'INSERM et du CNRS pour faire de la recherche sur le cerveau, et ça nourrit l'entreprise, ça la fait grandir et ça nous permet de financer des projets de recherche pour des applications futures cliniques, dont effectivement potentiellement l'autisme, mais pas que. Aujourd'hui, c'est 35 personnes. Nous sommes basés à Paris. Nous fabriquons nos produits à Paris.
Merci pour votre pitch. Merci de vous être prêté à l'exercice. Ludovic Lecointre, cofondateur d'Iconeus. Donc vous, si je comprends bien, vous avez inventé une machine qui ressemble à une espèce d'ordinateur à roulette et vous vous attaquez à plusieurs maladies du cerveau.
Oui. Alors, il y a plusieurs indications possibles à notre technologie, effectivement. Notre technologie, qui vient de l'INSERM et du CNRS, on a des brevets pour l'utilisation de cette technologie, permet de donner trois lectures différentes du cerveau. La première lecture, c'est l'activation des neurones, l'activité neuronale. Donc, quand dans une zone du cerveau, des neurones s'activent, ils ont besoin d'être nourris par le sang, parce que les neurones, contrairement aux muscles, n'ont pas de réserve énergétique. Donc tout de suite, le flux sanguin va augmenter dans cette petite zone, précisément. Et notre technologie a cette capacité de mesurer très finement les petites variations de flux sanguin. Donc on va être capable, sur l'image du cerveau du sujet étudié, de visualiser cette zone.
Avec une très très grande précision.
Très grande précision, très grande rapidité d'image.
Et donc, si une zone du cerveau s'active, vous êtes capable de faire clignoter cette zone en rouge. Et quel est le lien donc, avec l'autisme?
Alors, c'est un autre aspect. Donc ça, c'est le premier aspect de notre technologie. On a dit qu'on en avait trois. Le deuxième aspect, c'est une imagerie vasculaire très précise avec des agents de contraste. On peut avoir une résolution des flux sanguins de 5 micromètres. Pour une information, 5 micromètres, c'est la taille d'un globule rouge. Donc on va jusqu'au vasculaire, jusqu'au capillaire, entre 5 et 20 microns chez l'humain. Et donc on peut mesurer comme ça les flux sanguins très précisément pour les futures maladies. Par exemple, les maladies neurogénératives, elles ont une origine probablement vasculaire.
Donc c'est le deuxième cas. Le troisième cas, on arrive à l'autisme.
C'est en fait, on mesure ce qu'on appelle le connectome. Dans le cerveau, il y a en permanence des zones qui se connectent entre elles, même quand on fait rien, ou qui se déconnectent. Et quand on fait des tâches, évidemment, ces phénomènes sont amplifiés. Et ces connexions entre les différentes zones du cerveau forment un pattern de connectivité qu'on appelle le connectome. Et il y a des gens, c'est pas nous qui le disons, qui pensent qu'il y a dans le cerveau un état standard, on va dire, de connectome qui sert de référence. Et à partir du moment où on pose ce principe-là, on peut poser le principe que quand il y a une pathologie ou un trouble du syndrome autistique, eh bien, il y aura un écart par rapport au pattern normal. Et notre technologie permet donc de mesurer ce connectome. Et donc, peut-être, si la science marche en notre faveur, de diagnostiquer différentes pathologies dès la naissance ou très, très proche de la naissance, dont l'autisme.
Donc c'est une technologie, si on vous entend bien, Ludovic Lecointre, qui va être révolutionnaire si vous allez jusqu'au bout, et si c'est vérifié. Et là, je rebondis sur ce que vous nous disiez, Mohamed Sajidi, tout à l'heure, président fondateur de Vaincre l'autisme sur Europe 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers cette technologie, on peut aborder le diagnostic de l'autisme à travers un prisme beaucoup plus médical qu'un prisme clinique et compagnie, et les parents et les générations.
Exactement.
Donc, parce qu'on est complètement éloigné de la psychanalyse.
On est éloigné de la psychanalyse et puis des idéologies, surtout les idéologies, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui sur le web où les parents sont victimes. Le problème de l'autisme, c'est un dysfonctionnement neuronal. C'est clair, c'est découvert depuis longtemps. dans les connexions des synapses, il y a des dysfonctionnements.
Les synapses, c'est les circuits électriques, pour qu'on comprenne bien.
Les circuits électriques, il y en a qui se connectent, il y en a qui ne se connectent pas. Et là, vous avez un dysfonctionnement. Le traitement de l'information, elle est complètement dysfonctionné pour un enfant autiste. Vous parlez d'une bouteille, il comprend vert. Je donne un exemple qui vous paraît bête, mais c'est comme ça. Il regarde un verre, le verre, il y a de l'eau. Vous parlez de l'eau. Lui, il peut associer le mot eau au verre, mais pas au liquide qu'il y a dedans.
Donc il y a une déconnexion entre les...
Exactement. S'il y a des outils comme ça qui viennent détecter plus tôt, ça permet déjà d'avoir une suspicion. Par la suspicion,
vous utilisez le langage dans le dépistage. Sauf que la technologie de Ludovic Lecointre, qui est là ce soir sur Europe 1 avec Iconus, c'est que vous vous adressez aux bébés de moins de 6 mois.
Oui, tout à fait.
Mais c'est ça qui est extraordinaire.
C'est ça qui est formidable.
Alors, c'est extraordinaire, on ne sait pas encore si ça va être extraordinaire.
Mais non, mais c'est en cours parce que là, ça démarre normalement cette année, 2024.
Une étude, tout à fait.
Vous avez 3 dispositifs qui vont être testés sur les nouveau-nés à l'hôpital Robert Debré à Paris.
Oui, alors on a 3 dispositifs qui vont partir dans des études, dont un effectivement à Robert Debré, dans une étude qui va analyser des bébés, des prématurés, des grands prématurés, des bébés qui ont des différents problèmes de naissance, et dont un bras autistique, effectivement, entre 0 et 6, entre
donc
la naissance et 6 mois.
Vous aurez un groupe témoin et un groupe témoin, déjà pour pouvoir comparer.
Absolument, c'est une étude qui est financée par l'ANR, qui est dirigée par le docteur Valérie Biran à Robert Debré, Pierre Gressin, c'est un chercheur de l'INSERM qui est très actif sur cette étude, qui s'appelle Charlie Deménet, qui porte le projet.
Donc là, elle est en phase d'acceptation administrative.
Oui.
Nous sommes en France,
oui,
donc il y a beaucoup de paliers à franchir.
Oui.
Et ensuite, le protocole serait validé pour ensuite passer
avant la fin de l'année,
à l'échelle supérieure. Et je trouve ça extraordinaire. Vous en pensez quoi autour de la table?
Juste une chose à rappeler, que l'autisme, c'est postnatal ou prénatal. Donc des outils comme ça qui viennent précocement diagnostiquer. Je me rappelle que le professeur Benaré avait découvert que par manque de cytocine à l'accouchement, le chlore ne s'évacue pas du cerveau du bébé. C'est une première mondiale. Il était obligé de la financer par les Américains, parce que la France, on ne l'a pas entendu. Et il restait à découvrir quand est-ce qu'il y a un dysfonctionnement chez le fœtus. Il faut comprendre que c'est ces recherches-là qui vont emmener à faire évoluer les choses et à prévenir de la maladie. Aujourd'hui, comme on ne la considère pas comme une maladie qui porte atteinte à la santé, publique,
donc quand
on n'agit pas pour la recherche.
Donc on est dans un trouble neurologique.
Exactement, c'est neurologique, mais pas que, parce que par manque de recherche, il y a des choses qui vont être physiologiques, organiques, etc. La génétique, elle n'est même plus discutable aujourd'hui. Moi, j'ai fait des recherches génétiques. Thomas Bergeron, il est connu dans le monde et les Français, que mon fils était de nouveau. C'est un accident d'une mutation génétique dans le chromosome 11. Sauf que donc les autres, ils peuvent être héréditaires chez des familles où il y a 2-3 enfants. Par contre, là, moi, j'ai des cousins aujourd'hui qui ont des enfants autistes, et j'ai ma sœur qui a une fille autiste, d'ailleurs que j'ai préfectée à School Rabat, qui a vraiment évolué. Donc il y a quand même quelque chose de génétique qu'il faut creuser.
Il y a une part de génétique qu'il faut peut-être creuser. Ludovic Lecointre, si ça avance, là, je rappelle, c'est en phase de test, en ce moment, ça démarre, là, dont l'un à l'hôpital Robert Debré à Paris sur des nouveau-nés. Est-ce que vous allez conserver le même mode de financement? Parce que ça va prendre de l'ampleur.
Alors, de financement de la société, vous
voulez
parler?
Oui. Ouais.
Alors, effectivement,
vous cherchez pas à lever
la société a cette particularité que donc elle est autofinancée par ses ventes. Donc, nous avons les moyens de faire des preuves de concept. C'est-à-dire qu'en fait, on va en clinique pour faire des recherches cliniques sur différentes pathologies, dont l'autisme. On l'amène jusqu'à la preuve de concept. À un moment de la preuve de concept, si elle est positive, évidemment, on ne sait pas à l'avance, à ce moment-là, effectivement, il faudra des moyens bien supérieurs pour déployer le système sur le marché. Et là, évidemment, il faudra trouver des partenariats, il faudra changer de modèle de ce point de vue, tout à fait.
Clara, à Strasbourg, une maison 100% adaptée aux autistes vient d'être inaugurée. C'est bien, il y a plein de belles initiatives en France. Racontez-nous.
Cette maison s'appelle La Cordée. Elle a été imaginée par l'association Autonome Ensemble. Donc, le bâtiment se décompose en 7 appartements qui ont été spécialement conçus, occupés par des adultes autistes. Donc on fait une petite visite du domicile, si vous voulez, environ 40 mètres carrés. Une cuisine, un salon, une chambre, sauf que l'espace est adapté pour le quotidien des adultes autistes. Donc par exemple, il y a des variateurs de lumière pour les personnes photosensibles ou encore une meilleure isolation phonique. Chaque locataire a son propre espace, mais il peut aussi partager des activités pour favoriser la vie sociale. Donc ça passe par des sorties karaoké, du bowling, du cinéma. Voilà, il y a toute une vie de communauté qui se crée.
Voilà, il se passe des choses. On avance en France autour de l'autisme. On en parle ce soir sur Europe 1 à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Vous restez tous autour de la table de la France Bouge. On va faire une petite pause en musique avec les Rita Mitsouko et Andy sur Europe 1.
C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Envy. Envy, ça fait un moment que je te suis, Envy. Eh, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Envy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Excellente soirée sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et heureusement, elle bouge cette France. Et oui, vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Ce soir, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et ça avance. Heureusement, il y a des initiatives positives. Clara Léger, on a trouvé aussi un cinéma, je crois que du côté de Blois.
Exactement.
Dédié, il y a des séances dédiées aux personnes autistes.
Exactement,
génial,
ça se passe à Cap Ciné. C'est l'initiative de l'association Bouger l'autisme qui a créé un partenariat donc avec ce cinéma pour que le premier dimanche de chaque mois, il y ait une séance de cinéma adaptée qui est proposée à tarif réduit. Concrètement, donc, les lumières sont tamisées, on retrouve toujours ce facteur commun. Le son baissé, des sous-titrages affichés avec une séance pour les enfants le matin et une séance pour les adultes l'après-midi.
Je trouve ça formidable. Et cette histoire de lumière, c'est commun à toutes les personnes autistes. Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme.
En fait, ce n'est pas commun. Ça existe, c'est une question de sensorialité. Donc, ce qu'il faut retenir juste, c'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique, c'est quasiment chaque enfant à une intensité différente de l'expression de l'autisme. Il y a des enfants qui vont avoir cette sensorialité, d'autres ils vont avoir plutôt, c'est une question d'odorat ou de visuel, d'autres c'est plutôt le sonore. Et donc quand on... Faut juste, je clarifie juste une chose, quand on s'occupe des enfants précocement, tout ça on peut leur apprendre pour pouvoir le gérer. Ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est de pouvoir apprendre à l'enfant généré pour qu'il puisse vivre avec ses problèmes sonores, etc. C'est lui qui s'autogère dans cette situation, parce que dans le milieu ordinaire, on va pas préparer le milieu.
Mais justement,
lui.
Vous préparez, vous accompagnez grâce à Futuro School ce milieu ordinaire avec une vraie coopération des parents. Quand je vous en entends parler, les parents sont acteurs dans l'évolution de leur enfant.
C'est même une obligation des parents.
Ouais,
on a eu ce problème-là avec les autorités.
Mais c'est pas toujours simple.
Et j'en parle vraiment en tant que défenseur des droits des parents. Bien sûr, mais voilà. Si les parents ne sont pas appliqués, ce qu'ils vont retenir, c'est que dans ce traitement éducatif, si les parents ne sont pas appliqués, ils vont procéder autrement avec l'enfant. Et donc, ce que vous mettez dans un travail qualitatif, ne marchera pas, parce que c'est quand vous mettez de l'eau dans le sable. Ça, c'est la difficulté de l'autisme. En fait, c'est une éducation qui doit être permanente dans un processus à long terme avec les professionnels parents dans une mutualisation de compétences. Chacun a une information différente, il y a un savoir-faire différent. Le fait de réunir les informations, on cible le traitement. Et après, l'enfant progresse et il autogère lui-même les difficultés qu'il rencontre. Ils sont traités toutes les semaines avec ses thérapeutes. Par exemple, les jeunes adultes, c'est lui directement qui va faire. C'est plus le parent, c'est lui qui...
Ouais. Au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il évolue. Voilà. Nous sommes toujours avec Ludovic Lecointre, le cofondateur d'Iconius. Grâce à vous, grâce à votre entreprise, on va peut-être pouvoir détecter l'autisme à la naissance. Hein, vous êtes en train d'effectuer des tests, notamment à Paris. On espère que ça va avancer. Quand on dit que ça avance, c'est aussi grâce donc à des technologies qui permettent de mieux communiquer et pourquoi pas de s'insérer davantage. Hein, c'est l'objectif, parce que c'est vrai qu'on les accompagne, ces enfants, mais une fois adultes, que deviennent-ils ? Eh bien, on a peut-être trouvé une solution avec l'autre talent de ce soir sur Europe 1.
Europe 1.
Le talent de la France bouge.
C'est vous, Sarah Chériot, vous êtes la fondatrice d'Auticiel. Votre entreprise a 10 ans ?
Oui, c'est ça, on vient de fêter nos 10 ans.
Oui. Alors, on revient un petit peu sur le parcours, comme ça on apprend à mieux vous connaître. Vous avez fait des études de lettres, de littérature, vous avez été dans une école de commerce aussi.
Spécialisée dans le numérique, oui.
Spécialisée dans le numérique, pourquoi être allée vers l'autisme ?
Alors, c'est des rencontres, hein, on en parlait tout à l'heure, la sérendipité, moi je dis souvent, les rencontres, les heureux hasards. J'ai rencontré une association de parents d'enfants avec autisme il y a 10 ans, et c'est une maman qui se rendait compte que son enfant, qui n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, arrivait très bien à utiliser son téléphone, qui était tactile, parce que c'est très intuitif d'utilisation, ça va capter son attention. Et donc, elle m'a dit, toi qui travailles dans le numérique, est-ce que tu voudrais pas réfléchir à faire des applications utiles sur téléphone qui lui permettent d'avancer et d'apprendre.
Beau challenge.
Oui.
Beau challenge. Auticiel est né. Vous allez pitcher pendant une minute et puis on va rentrer dans le détail. Vous êtes prête ?
Allez,
top chrono, on vous écoute.
Alors donc chez Auticiel, on développe des applications sur tablette et smartphone pour faciliter la vie des personnes autistes et faciliter leur inclusion sociale. Donc avec une équipe de chercheurs et d'associations, on a créé une suite d'applications qui s'appelle Amikeo, qui va transformer une simple tablette tactile en un compagnon pour l'enfant ou l'adulte, et ce compagnon va l'aider dans son quotidien. Donc par exemple, il va retrouver un agenda simplifié pour le guider dans sa journée, avec une diminution du stress qui peut être liée au changement d'activité. Des tutoriels aussi pour gagner en autonomie, donc avec des accompagnements pour se brosser les dents, se faire à manger, s'habiller par exemple. Il va pouvoir aussi utiliser des pictogrammes pour communiquer, pour exprimer ses émotions, une douleur, et puis aussi des exercices pour travailler les apprentissages cognitifs fondamentaux. Donc la force de nos applications, c'est qu'elles sont très personnalisables pour s'adapter à un large spectre de besoins, on en a parlé tout à l'heure, et de profils. Et on va ensuite remonter de la donnée statistique pour les professionnels et les parents qui suivent les progrès à distance. Donc juste un chiffre, aujourd'hui on enregistre 450 000 téléchargements dans le monde, nos applications sont traduites en 6 langues. En France, on travaille avec plus de 750 écoles et établissements. Et notre actualité, c'est l'emploi, puisqu'on vient de sortir une nouvelle solution pour adapter les postes de travail aux besoins des personnes autistes et améliorer leur emploi.
Merci Sarah Chériot, CEO et fondatrice d'Auticiel. Ce qui nous intéresse avec vous là, c'est la partie emploi. On a vu la partie enfant avec Vaincre l'autisme. Justement, Clara Léger, les chiffres sur l'autisme dans le monde professionnel.
C'est l'AGFIP qui vient de publier son observatoire autisme et emploi. Parmi les chiffres qui en ressortent, 57% des personnes autistes adultes sont en activité, que ce soit en emploi ou en formation. Elles sont 47% à avoir été accompagnées justement pour pouvoir travailler. En France, on estime qu'il y a environ 300 000 personnes autistes dans le milieu professionnel.
C'est plutôt encourageant parce qu'il y a ce qu'on appelle un peu la rupture de parcours, c'est-à-dire qu'arrivé à l'âge de 16 ans, il n'y a plus grand-chose pour accueillir les autistes. Vous, avec les tablettes, avec les applications Sarah Chériot, concrètement, quels services proposez-vous aux entreprises pour qu'elles aient une politique d'inclusion plus importante à l'égard des personnes autistes?
Alors, c'est vrai qu'on parlait des chiffres à l'instant. Si on regarde les chiffres en milieu ordinaire, là, on est à 0,5% des adultes autistes.
Milieu ordinaire, c'est une entreprise classique.
Exactement. D'accord. Donc, on est très, très, très loin et très en retard en France par rapport à d'autres pays.
Ah oui.
Vous allez à Londres, vous allez dans une épicerie, vous allez croiser une personne autiste qui est commis d'épicerie. En France, vous ne gérez jamais ça. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et donc, nous, on fournit en fait une solution qui s'appelle le coach Abileo, sur tablette là encore, qui va permettre de développer les savoir-faire, les savoir-être et les connaissances des travailleurs autistes.
C'est-à-dire que cette tablette va, on va distinguer, on va détecter en quoi la personne est plus capable, entre guillemets.
C'est ça. Alors, en fait, ça va la guider sur son poste de travail.
Ça donne
donc
quoi?
Sur sa tablette, il a son emploi du temps de la journée, donc il sait quelle tâche va se dérouler après, voilà. Il a sa liste de tâches et ensuite il va avoir des tutoriels simplifiés pour l'aider à réaliser des tâches complexes. Parce qu'une difficulté en fait des travailleurs et ce qui freine l'employabilité des travailleurs autistes, c'est souvent leur manque d'autonomie. C'est ce que disent les employeurs. Moi, j'ai pas le temps d'être derrière une personne pour lui dire ce qu'elle doit faire dans sa journée, dans quel ordre. Donc là, la tablette prend le relais. Elle lui dit précisément quel est son emploi du temps. Et pour les tâches complexes qui sont difficiles à réaliser ou difficiles à mémoriser, la tablette va guider la personne comme un petit coach qui sera tout le temps avec lui.
Aujourd'hui, au moment où on parle, Sarah Chiriot, sur Europe 1, vous êtes la fondatrice d'Auticiel. Avec qui, à qui avez-vous vendu, quel genre d'entreprise vous avez vendu vos tablettes pour pouvoir insérer des personnes autistes?
Oui, alors on travaille avec des entreprises en milieu ordinaire, des restaurants inclusif,
donc
notamment Papier et Papillon, par exemple. On travaille aussi avec les Cafés Joyeux, donc on n'est pas dans l'autisme, mais enfin, il y en a aussi.
Bah, si,
et puis, on a aussi également beaucoup d'ESAT, hein, des entreprises adaptées, donc là, plutôt dans le milieu protégé, dont on parlait tout à l'heure, qui sont équipées de ces solutions.
Grâce à votre solution, vous mettez davantage à l'aise aussi les employeurs, parce qu'ils vont avoir plus de facilité, hein, puisqu'il y a cette tablette qui va les aider. Et comment est-ce que vous les formez, ou comment vous formez les personnes autistes à utiliser cette application? Et donc sur les tablettes.
Alors on fait des formations en direct, après en fonction des niveaux, là encore une fois il faut toujours adapter les logiciels, c'est-à-dire que on a certaines personnes qui vont simplement utiliser les tutoriels qui sont proposés et on en a d'autres qui ont plus de capacités qui vont se créer elles-mêmes dans l'application leur propre tutoriel, leur propre point de repère pour pouvoir travailler.
Ça coûte combien pour une entreprise d'utiliser vos services?
Alors aujourd'hui, on a moins de 500 euros pour les packs tablettes avec les logiciels. Mmh. L'objectif, c'est d'être le plus accessible possible. Nous, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui a un agrément qui s'appelle ESUS, qui fait que du coup, on essaye de vraiment de travailler à l'accessibilité prix des produits. Et puis aujourd'hui, la plupart...
Elles existent, ce genre de tablettes aux États-Unis? Comment se fait-il que 95% des autistes ici ne travaillent pas, alors qu'aux États-Unis, 40% ont un emploi, 18% en Grande-Bretagne, comme vous le disiez tout à l'heure.
La philosophie...
C'est quoi? C'est une histoire de culture? C'est une histoire de... C'est quoi?
Ouais, c'est vraiment une histoire de culture. Tout à l'heure, on parlait des initiatives
d'éducation,
de proximité.
Mamette, ça j'y dis.
Tout à fait. Alors, il y a l'éducation et puis il y a aussi une question de culture. Pour avoir dialogué récemment avec une entreprise dans les espaces verts, je leur parlais de travailleurs, moi, que je connais, hein, qui sont autistes, qui travaillent extrêmement bien dans les espaces verts et qui sont en ESAT. En leur disant, mais vous pourriez embaucher, vous êtes en demande de main d'œuvre, vous pourriez embaucher des travailleurs autistes.
Ils vous disent quoi?
Ah non, nous on sait pas gérer, on sait pas faire. Voilà. Il y a vraiment une question de sensibilisation.
Donc d'éducation.
D'éducation du grand public, parce que l'inclusion, ça marche dans les deux sens.
Mais
il faut outiller les personnes, mais il faut aussi sensibiliser les employeurs qui vont accueillir ces personnes.
Même il s'agit d'une
patron si vous
de
permettez aussi, parce que je suis dedans, donc moi le concept pour l'insertion professionnelle est créé en 2007, impossible à mettre dans le système, parce qu'en fait, il faut retenir que il ne faut pas quand même que l'entreprise se paye les difficultés d'une personne autiste. Et donc, pour nous, dans notre constat, c'est qu'il faut accompagner la personne avec des informations, y compris avec des outils tablettes, etc., parce qu'on travaille avec des technologies.
Oui, c'est ce que propose Sarah Chiriot.
C'est que ce temps-là doit prendre pour il y a un jeune qui va prendre 6 mois pour apprendre son poste, un autre 2 ans. Et là, ça doit être le médico-social qui suit. Ce n'est pas l'entreprise qui se paye ça. Il faut que l'entreprise soit ouverte pour tolérer cet apprentissage. Et une fois que la personne... Après le poste, on crée l'emploi. Et ça, c'est nécessaire. C'est pour ça que les personnes autistes ne sont pas employées, parce que c'est d'une résistance et une incompréhension dans l'accompagnement de ces personnes.
Peut-être que c'est une erreur de considérer donc l'autisme comme une maladie. Il ne faut pas la considérer comme telle.
En fait,
dans les entreprises.
Si on en parle comme maladie, c'est dans le cadre médical et scientifique,
c'est
pas psychiatrique.
Et ce que je voulais juste rajouter, c'est aussi pour faciliter l'inclusion, c'est la data, la donnée. On parle aujourd'hui des données qui sont remontées. Nous, la chance qu'on a avec nos logiciels, c'est qu'on va pouvoir capter et donner une photographie des compétences de la personne. Cette photographie, elle est objective. Et quand on la met sous les yeux des employeurs, ils se rendent compte,
c'est factuel.
C'est factuel.
Voilà. Et d'autres ont fait de l'autisme une force, hein, comme Lali Dugelé, Clara Léger. Lali, elle a créé en 2020 sa structure Atypi at Work.
Europe 1.
La belle histoire de la France bouge.
Donc Lali, Clara Léger, elle a aujourd'hui 47 ans oui. Et elle a été diagnostiquée à
l'âge... Il y a seulement 4 ans, donc elle avait 43 ans d'un autisme sans déficience intellectuelle qu'on appelait auparavant l'autisme Asperger. Elle est aussi haut potentiel intellectuel, HPI. Mm-hmm. Après une vie qu'elle a considérée comme passée dans la méconnaissance d'elle-même des autres, le diagnostic a été pour Lali un véritable révélateur, que ce soit personnel ou professionnel. Pour Lali, les troubles autistiques se manifestent de différentes manières.
Alors, en premier lieu, une incapacité à communiquer simplement avec les gens, à comprendre les codes sociaux. Donc, ça crée un problème de communication assez naturel, comme vous pouvez l'imaginer. Par ailleurs, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stéréotypie, donc le fait d'avoir des mouvements répétitifs quand je suis anxieuse, par exemple.
Et son parcours professionnel a donc été compliqué, vraiment. Ça l'a mené à un burn-out en 2018. Le diagnostic posé lui a permis de pouvoir bénéficier des aides, notamment de la Maison départementale des personnes handicapées. Elle a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aussi pour pouvoir bénéficier, entre autres, d'aménagements dans son travail.
Ça peut se traduire par peut-être plus de télétravail que d'autres collègues. Ça peut être avoir des horaires décalés. Il faut que les choses soient extrêmement claires quand on me donne une mission. Alors, je suis en capacité de faire cette mission-là, mais je ne suis pas en capacité de mettre des limites. Donc, je vais toujours beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on me demande. Maintenant, quand on est autiste et qu'on a beaucoup vécu de ces listes par le passé, on essaye de se faire le plus petit possible, de s'intégrer au maximum. Mais encore une fois, sans avoir les codes qui vous permettent d'y parvenir parfaitement.
Parce qu'on en parlait tout à
c'est
l'heure.
C'est dur, hein, ce qu'elle
c'est,
dit.
C'est difficile. C'est une
possible.
Femme et elle a longtemps caché qu'elle était autiste et ça a été hyper difficile de s'assumer. En fait, en 2020...
Elle s'est auto-censurée.
Exactement. Oh, en 2020, Lali, elle a décidé de créer Aspi at Work, qui est devenue aujourd'hui Atipi at Work. C'est une structure qui sensibilise les entreprises à l'insertion et à l'accompagnement des personnes autistes. Et il y a une vraie évolution, elle le constate, dans les mentalités.
Ça fait du bien.
On peut réussir à travailler, des personnes autistes, des personnes TDAH, des personnes 10 ont toute leur place en emploi. Seulement, il faut prendre en considération leurs spécificités, qui ne sont pas les mêmes qu'une personne qui n'a pas de trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est important de voir que les entreprises se lancent sur ce sujet-là. Et alors, au départ, je ne donnais pas que des conférences sur l'autisme ou des sensibilisations à l'autisme ou au TND. Mais de plus en plus, c'est quand même la demande qui prévaut de ces dernières semaines et ces derniers mois.
Ça bouge, c'est positif.
Mais c'est bien, ça fait du bien. Mais l'aspect femme, je ne pensais pas que c'était un sujet à ce point-là.
Oui.
Quand on est une femme et quand on est autiste, que la difficulté est encore plus importante.
Femme autiste et surtout très mal diagnostiquée, parce qu'il faut retenir, nous on parle de ça avec des
43
preuves.
43 ans.
Les femmes sont diagnostiquées avec des mauvais diagnostics de borderline, bipolaire ou dépressive. Et là, vous avez des traitements médicamenteux juste par l'absence. Et là, quand on parle de HP, on est dans une comorbidité. Souvent, on fait une erreur. On dit oui, c'est des autistes de génie. En fait, c'est une comorbidité de coefficient intellectuel.
Ça veut dire quoi, c'est une comorbidité? Ça signifie quoi?
Ça veut dire que c'est une autre pathologie associée, c'est un autre handicap ou un autre trouble associé neurodéveloppemental. Donc, c'est-à-dire, l'intelligence, c'est de la surdouance. Donc là, vous avez une personne autiste et qui a aussi de la surdouance. Mmh. Et il peut y avoir d'autres choses comme les troubles de l'hyperactivité.
Bon, elle s'en sort bien et ça nous fait
c'est
du bien.
Oui.
Merci pour ce témoignage, Clara Léger, et le portrait de Lali Dugelet. C'est déjà la fin de cette France Bouge à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Vous faites tous et tous du bien à notre société et ça, on était ravis de vous avoir aujourd'hui sur Europe 1. Merci à vous, Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. Merci d'être venu ce soir.
Merci à vous de nous avoir invité.
Merci à Ludovic Lecointre, cofondateur d'Iconeus. Donnez-nous des nouvelles, hein,
merci,
parce
oui,
que là, vous
d'accord.
êtes en pleine phase de test pour diagnostiquer l'autisme. Dès au plus jeune âge, hein, dès la naissance. Merci à vous, Sarah Chériot, CEO et fondatrice d'Auticiel, pour
merci.
L'intégration des autistes
merci
dans
beaucoup.
Nos entreprises. Merci à tous, vous restez sur Europe 1 avec la Libre Antenne. Tiens, c'est présenté ce soir par Olivier Delacroix, c'est entre 22h15 et 1h du matin. Vous avez la possibilité de témoigner, de tout raconter, il n'y a aucun jugement. Vous pouvez partager votre expérience en laissant vos coordonnées au 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé.